Vous êtes sur RTL.
Ennemi.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 2 heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs entre 12h30 et 14h30. L'info avec Agnès Bonfillon jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, Didier Raoult a-t-il enfreint le code de déontologie? Le professeur marseillais est entendu en ce moment même par ses pairs. Peu importe le département de France, toutes les volailles de plein air doivent désormais être confinées. Le risque de grippe aviaire a encore franchi un niveau. Et puis en tennis, aucune gaffe de la part de Gaston. Je sais, elle est facile. Au contraire, au Masters de Paris, le jeune Français crée la surprise.
À 12h42, sujet de débat comme d'habitude. L'exécutif face au casse-tête de la 3e dose de vaccin. Faut-il rendre ce rappel obligatoire? Et puis le comeback d'ABBA, 40 ans après leur dernier disque. Les 4 Suédois font leur retour. Notre journaliste Steven Bellery a pu les rencontrer en exclusivité.
Et sachez que la question du jour sur RTL.fr concerne notre premier débat Covid-19. Faut-il rendre obligatoire une 3e dose pour les personnes les plus fragiles? Vous dites oui à 50%, non à 41%. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Cet après-midi, c'est plutôt pas mal.
Oui, c'est vrai, on a juste une bande nuageuse qui coupe le pays entre les Pyrénées et le Grand Est. Ça apporte à peine quelques petites précipitations de façon très localisée en Franche-Comté ou encore en Auvergne. Attention, on a de la neige en montagne à partir de 1000 mètres de part et d'autre. Du soleil, ce sera le cas tout l'après-midi. Mistral et Tramontane se sont levés du Roussillon à la Provence. Il faut être assez prudent, puis ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Malgré tout, on aura 16 degrés à Marseille cet après-midi, 14 à Nîmes, 12 au Mans, à Paris, à Lille, 11 degrés à et Montauban et 10 degrés à Bourges, à Besançon et dans un magnifique petit village à côté de Soissons qui s'appelle Chaffos-Saint-Pierre-Aigle.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Accusé d'avoir enfreint le code de déontologie en faisant la promotion notamment de l'hydroxychloroquine, Didier Raoult est devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins depuis ce matin, depuis 9h30 précisément. Une audience dépaysée à Bordeaux, loin de Marseille pour plus de sérénité. Quelques-uns de ses soutiens ont quand même fait le déplacement, Denis Grandjeau.
Oui, Gilbert est venu de très loin pour supporter le professeur Raoult.
De Normandie, 7 heures de route, et je le défends.
Et quand on parle à Gilbert de l'efficacité du vaccin?
Non, c'est faux. Ah bon? C'est faux.
Une position unanimement partagée par tous les participants depuis ce matin.
De toute façon, c'est simple. On a trouvé cette injection... là, comme par magie, alors que pour le cancer, il n'y a pas de traitement.
Vous allez le dire à la télévision, ça?
Dire quoi?
Vous allez oser le dire, ça?
Mais dire quoi?
Eh bien, ce qui se passe là, avec Raoult.
Mais regardez, je suis là.
Vous allez le dire la vérité?
Mais c'est quoi
vous
la vérité?
La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de pandémie.
Parmi la 60aine de manifestants présents devant la cour administrative d'appel en plein centre de Bordeaux, des femmes en blouse blanche, c'est le cas de Lily, médecin à la retraite.
Eh bien, je suis là parce que je m'oppose totalement à ces mesures iniques qui font que des médecins qui soignent soient suspendus par le Conseil de l'Ordre, soient empêchés de travailler.
Tous les manifestants sont bien décidés à l'accompagner dès sa sortie.
Le reportage de notre correspondant Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. Cette fois, c'est officiel, le Parlement autorise le possible recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. 31 juillet 2022, l'Assemblée nationale a voté, dans une ambiance houleuse, une ultime mouture du projet de loi dite de vigilance sanitaire. Un projet de loi approuvé par 118 voix contre 89.
Désormais, ce sont les volailles de la France entière qui doivent être confinées.
Le risque de grippe aviaire vient de franchir un niveau. Il est élevé désormais, mais cela ne provoque pas une grosse panique chez les éleveurs. Sophie Jousselin.
Oui, puisque une partie d'entre eux, ceux qui sont dans des zones de passage migratoire ou dans des régions à forte densité d'élevage, ont déjà dû mettre leurs bêtes à l'abri il y a quelques semaines face à la progression du virus qui se rapproche de nos frontières. Il y a des foyers en Allemagne, en Italie. En France, il n'a été détecté ce virus pour l'instant que dans 3 basse-cour chez des particuliers dans les Ardennes et dans l'Aisne. Chez les éleveurs de canards et d'oies, 30% sont concernés par cette mesure. Marie-Pierre Pé du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.
On a beaucoup travaillé tout ce début d'année pour trouver des solutions et éviter d'être à nouveau à la merci de ce virus. Donc nous sommes confiants, je pense qu'il y a peut-être quelques éleveurs qui sont un petit peu en difficulté ce matin, mais qui vont trouver des solutions pour mettre leurs animaux à l'abri. Rassurons-nous, nous avons suffisamment de production pour que tous les Français puissent avoir leur petit foie gras pour Noël. Ça sera sans inquiétude.
Et il n'y a pas que les élevages qui sont concernés. Les compétitions de pigeons voyageurs sont interdites jusqu'à fin mars. Et dans les zoos, les oiseaux qui ne peuvent pas être mis à l'abri doivent eux aussi être vaccinés. Il n'y a pas que nous.
À Sophie Jousselin du service qualité de la vie de RTL. Ils vécurent heureux, mais pas leurs enfants. C'est l'un des nombreux slogans à Glasgow. Depuis midi, en marge de la COP26, ce sont les jeunes qui manifestent. Des jeunes très en colère qui accusent les grands de ce monde de lancer des promesses creuses. Demain, ils ont prévu d'être là à nouveau pour une grande marche pour le climat.
Tout à fait autre chose à présent, les Dalton, il n'y a pas que les rodéos urbains pour faire le buzz.
Vous avez peut-être vu ces images hier soir, deux membres du collectif lyonnais, toujours habillés comme dans Lucky Luke, costumes rayés jaune et noir, ont envahi le terrain du Groupama Stadium lors du match de l'OL contre le Sparta Prague. Ils ont bien sûr été interpellés. Frédéric Perruche, vous vous êtes renseigné, quel est le profil de ces deux individus ?
Écoutez, selon nos informations, ces deux jeunes, après leur tour de stade sous les sifflets, ont été placés en garde à vue et ils le sont toujours. L'un des deux est mineur, il n'a que 15 ans, peu connu des services de police, ce qui n'est pas le cas de son camarade âgé, lui, de 20 ans, déjà condamné par le passé avec un casier judiciaire chargé. Tous les deux ont revendiqué leur appartenance au collectif des Dalton, même s'ils n'habitent pas Lyon, ni même le département du Rhône, ce qui semble indiquer que le groupuscule recrute ses petites mains, loin de sa base du quartier Mermoz, dans le 8e arrondissement. En marge de l'action d'hier soir, largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les policiers cherchent également à savoir s'ils sont impliqués dans d'autres faits de rodéo ces dernières semaines, grâce aux images tournées par le groupuscule et celles de la vidéosurveillance de la ville. En théorie, l'intrusion sur le terrain de l'OL est passible au maximum pour le majeur d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. En théorie seulement, ils risquent plus sûrement l'un et l'autre une interdiction de stade, des amendes. Le parquet décidera de leur sort en fin de garde à vue.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Jean-Luc Lahaye est présenté à un juge d'instruction en ce moment même. Après 48 heures de garde à vue, le chanteur risque une mise en examen. Il est soupçonné de viol, d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et corruption de mineur. Nuit de violence urbaine à Fréjus dans le Var. La nuit dernière, une vingtaine d'individus du quartier de la Gabelle, certains cagoulés, ont tenté de démonter un pylône équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Un policier a été blessé, deux individus interpellés. Écoutez, Julien Ventre, secrétaire départemental du syndicat SGP Police.
Ils ont pris d'assaut une pelleteuse, différents conteneurs, feux de conteneurs. Ils ont commencé à attaquer la caméra, le pylône de la caméra pour totalement la détruire. Il faut savoir une chose, c'est qu'hier soir, il y avait un équipage de police secours et un équipage de BAC. Donc est-ce qu'on peut continuer sur des secteurs comme ça où il y a des violences urbaines quasi récurrentes, puisque la veille, il y avait eu également des échauffourées, se retrouver avec si peu d'effectifs et attendre des renforts de Draguignan et de Toulon pour pouvoir éteindre totalement ces violences urbaines. Les nuits sont sinistrées. Bon, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que la nuit, il n'y a pas grand monde en effectif police.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin. 8 minutes de silence à Marseille ce matin. Une minute pour chaque victime de la rue d'Aubagne. Il y a 3 ans, jour pour jour, deux immeubles s'étaient effondrés. Selon les associations, il faut désormais passer aux actes dans ce quartier pour ne plus jamais connaître un tel drame.
Du sport à présent et en tennis, comment ne pas revenir sur l'exploit d'Hugo Gaston hier au Paris Masters de Bercy.
Le Français de 21 ans s'est qualifié en quart de finale après une victoire, très belle victoire sur Carlos Alcaraz. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Agnès.
En tant que spécialiste tennis, vous en avez vu des matchs, mais alors un comme celui-ci, ce n'est pas tous les jours.
Ah ouais, sans contestation, c'est un match d'anthologie parce qu'Hugo Gaston n'a rien lâché, même quand il était mené 5-0 dans le deuxième set. On se disait qu'il allait laisser filer afin de se concentrer sur la dernière manche. Que nenni ! Le Toulousain a entendu un spectateur lui crier « C'est l'heure de la remontada ». Bon, il s'est dit pourquoi pas, dans une ambiance de folie. Il a grappillé petit à petit les jeux, refait son retard sur un Carlos Alcaraz qui a fait ses 18 ans. Malgré son talent, la pépite espagnole ne savait plus du tout où il habitait. C'était dingue, comme si Gaston lui avait mangé le cerveau. Le Français a aligné un 7-0, 7 jeux d'affilée, pour l'emporter dans un Bercy déchaîné. Franchement, on sent qu'il y a un air post-Covid et que le public revit. C'était fantastique. Et ce soir, eh bien, les spectateurs devront porter encore Hugo Gaston, car en face, il y aura Daniil Medvedev, le russe numéro 2 mondial, tenant du titre et récent vainqueur de l'US Open.
Et vous dites le soir, c'était la nuit, là, le match a commencé à 23h.
Comment vous dire, oui, 23h, il s'est terminé très très tard et nous en tant que journalistes, on a fini encore plus tard.
En tout cas, ça n'enlève rien au fait que vous nous fassiez vivre ces matchs de façon extraordinaire. Merci Isabelle Langer. En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, on parle foot évidemment. Lens reçoit 3 ce soir à 21h, un match à suivre sur notre antenne dans RTL Foot, présenté par Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Xavier Domergue. Des grands vins, des sacs et des montres de luxe, des Lamborghini ou encore des Porsche. C'est une vente aux enchères très particulière qui se déroule au ministère de l'Économie et des Finances. Tous les objets mis à prix appartenaient à des malfaiteurs. La morale importe peu hein, quand on parle de bonnes affaires, Arnaud Touche.
Oui, vous avez raison Agnès, et il y a d'abord le vrombissement des voitures de sport juste en dessous des fenêtres des bureaux des ministres ce matin. Alors là, ce que vous entendez, c'est une Lamborghini Aventador qui s'arrache en salle des ventes quelques minutes plus tard.
150 000, j'ai 150 000. 165 au fond de la salle, 170, j'ai 170 dans la salle. Je suis à 215 000. 227 000 euros, ça reste encore une bonne affaire pour ce véhicule. Je suis à 226 000. 227. J'ai tapé à 227.
Et ces 227 000 euros iront dans les caisses de l'État et cette vente peut rapporter gros, comme le détaille Alain Comeil, un des organisateurs de la vente à la Direction Générale des Finances Publiques.
On a une sélection très large de biens, hein, de 300 biens, une mise à prix de 1,4 million, donc c'est une vente qui n'est pas banale et on en attend au moins 2 millions. On a 1000 personnes qui vont venir en salle aujourd'hui et on a 8500 personnes inscrites en ligne.
Et on croise ici tous les publics comme Hugo, 21 ans à peine, qui vient de se payer une jolie Mercedes.
30 000.
C'est un bon prix ?
C'est correct, ouais. Par rapport au prix du marché, c'est correct.
Cette vente, vous l'attendiez depuis longtemps ou pas ?
Depuis un mois.
Et ce matin, c'était au tour des voitures de trouver preneur. Et cet après-midi, vous trouverez bijoux, maroquinerie de luxe ou encore montres. Du plus bel effet, j'en suis certain.
Merci beaucoup Arnaud Touche, à Bercy pour RTL. On finit le journal et on vous rejoint.
Ah bah oui, avec plaisir.
Deux débats, vous voulez acheter quoi ?
Bon, une petite montre, non ?
Bah écoutez, pourquoi pas, deux
je
débats.
Je sais pas, vous avez l'air dubitatif.
Deux débats à suivre. L'exécutif face au casse-tête de la troisième dose de vaccin. Faut-il rendre ce rappel obligatoire? Et puis le comeback d'ABBA, c'est vendredi. Vous aimez ABBA? Bon, alors tant mieux. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Lier le pass sanitaire à une troisième injection de vaccin ou en rappel, l'exécutif y pense de plus en plus. Bonjour Stéphane Gaudry.
Bonjour.
Vous êtes chef adjoint du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Pousser la population à faire ce rappel, c'est maintenant pour éviter une cinquième vague ?
Oui, enfin, il faut anticiper. Après, parler de cinquième vague, je pense que c'est un petit peu exagéré actuellement. Je pense que c'est surtout pour éviter en tout cas qu'il y ait à nouveau des patients dans les services et des patients en réanimation, en particulier les personnes âgées pour lesquelles l'immunité diminue quelque peu à distance de la deuxième dose. Donc oui, il faut promouvoir cette troisième dose et c'est ce qui est en train d'être fait.
Alors justement, Stéphane Gaudry, j'aimerais vous faire entendre l'une de nos auditrices, Evelyne. Elle a 70 ans. La troisième dose, elle ne veut pas en entendre parler.
Il n'est pas question que je fasse une troisième dose. La deuxième dose me suffit largement. Ce qui veut dire que ce vaccin n'est pas fiable. Si on est obligé d'avoir une troisième dose, et pourquoi pas en février une quatrième et au mois de mai une cinquième. Non, non, je ne ferai pas la troisième dose.
Que lui répondez-vous à Evelyne ?
Ah ben que de manière certaine, ce vaccin est très fiable, ça c'est sûr. Donc là-dessus, elle se trompe, puisque c'est très très fiable et que ça nous a d'ailleurs permis de vivre à peu près normalement en métropole cet été, sans avoir à fermer un certain nombre de choses comme on l'avait fait les fois précédentes. C'est grâce à la vaccination que vous avez passé un été à peu près normal. Donc c'est très très fiable, c'est très efficace. Je comprends que ce soit ennuyeux de se dire qu'il faut que j'y retourne 6 mois plus tard. Néanmoins, je pense que c'est important à titre individuel pour votre auditrice, pour éviter de refaire une forme grave d'ici quelques mois parce que l'immunité a à nouveau un petit peu baissé. Et puis, c'est également important à titre collectif. Donc, je pense qu'il faut le faire et il faut promouvoir cette troisième dose.
Monsieur Gaudry, j'ai une question toute simple. Vous êtes chef adjoint du service de réanimation. Les gens qui sont aujourd'hui en réanimation, ils ont été vaccinés ?
Alors, la grande majorité des malades, enfin quasi-totalité des malades qui sont en réanimation pour un Covid grave restent des malades non vaccinés. Ceux qui ont été vaccinés sont une population un petit peu particulière. Ce sont des malades qui présentent des maladies qui ont un impact sur l'immunité, par exemple des cancers du sang, comme des leucémies ou des lymphomes, qui font qu'en fait, ils répondent assez mal à la vaccination.
Donc il n'y a pas de cas de gens vaccinés qui développent une maladie grave du Covid.
Alors, dans le service où je travaille, depuis qu'il y a la vaccination, depuis plusieurs mois, je crois que nous avons vu un seul malade
donc ça, c'est important. Ça, c'est important,
et qui était en réanimation. Un seul sur... Des dizaines et des dizaines. Donc, si vous voulez, oui, c'est très important.
Très important de dire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette dame a dit, c'est pas fiable. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que ça dure pas éternellement. Mais ça, on sait pas le temps du vaccin. C'est 6 mois, c'est 8 mois, c'est 9 mois?
Bah, c'est compliqué à dire, et puis ça dépend beaucoup de la population. Quand vous adressez à une population âgée, très âgée, plus de 75 ans, par exemple, vous savez que le système immunitaire, il réagit moins fortement à la vaccination, et surtout la durée de l'efficacité, c'est plus court et les anticorps vont baisser plus rapidement que dans une population plus jeune. Donc en effet, oui, les personnes plus à risque, plus âgées, il va falloir les revacciner.
Donc ça sera tous les 8 mois, c'est ce qu'elle veut dire cette dame. C'est-à-dire qu'en fait, si cette épidémie devient récurrente, si j'ose dire, saisonnière, bah, tous les 8 mois, il faut y retourner. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'organisation, parce que vacciner je ne sais combien, 10 ou 15 millions de personnes, entre le moment où le président de la République va parler pour conditionner le pass sanitaire à une troisième dose et le moment où ce sera effectif, ça ne peut pas être du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2 mois pour revacciner tout le monde.
Bien entendu, non, mais c'est sûr que tout cela, ça c'est une question politique et d'organisation.
Oui, c'est d'organisation, c'est pas simple. Hein.
Oui, mais il faut bien comprendre également qu'on vit une pandémie depuis 18 mois, qu'on a une chance absolument folle en fait, hein, d'avoir accès à un vaccin qui est efficace. Mais qu'en effet, ça nécessite quelques adaptations et surtout de comprendre la durée de l'efficacité. Est-ce qu'il va falloir se refaire vacciner peut-être tous les ans? C'est une possibilité, comme quand on se fait vacciner contre la grippe. Hein, chaque année, on se refait vacciner contre la grippe. Avec, bien entendu, le fait est que pour la grippe, c'est des virus un petit peu différents chaque année. Et peut-être qu'il faudra en passer par là. Mais écoutez, franchement, entre ça et se retrouver confiné ou avec
nous sommes
des
d'accord.
centaines de morts chaque jour...
Nous sommes d'accord. Mais maladie, l'organisation, c'est vrai qu'elle me pose le même problème. Parce que entre le moment, je le répète, où on l'annonce et le moment où tout le monde est vacciné, il s'est passé 2 mois. Mais pendant 2 mois, le virus a circulé, par définition. Donc c'est ça que j'ai du mal à saisir parfaitement. Merci en tout cas, monsieur Gaudry. Merci beaucoup. On va parler d'ABBA. C'est sans doute plus réjouissant. Peut-être.
Et joyeux.
Et joyeux.
On en a besoin.
Et on en a besoin. Il est 12h50.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute. Fait.
RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Mamma Mia, le groupe ABBA revient aujourd'hui avec Voyage, son 9e album, un incroyable comeback. Benny et Björn, le compositeur et le parolier, ont accordé un entretien exceptionnel à RTL. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
C'est vous qui avez recueilli leurs confidences et on va revenir ensemble sur le phénomène ABBA. Là, on pourrait chanter Money, Money, Money. D'abord marketing.
Ah ben, imaginez, vous savez... Allez, au doigt mouillé, combien d'albums ont été mis en magasin ce matin pour ABBA?
C'est Pascal le spécialiste.
Dans le monde entier?
Non, en France.
Rien qu'en France. Ah, au moins 1 million?
Ah non, 1 million, vous imaginez. 150 000 albums ont été mis en magasin.
C'est déjà
beau. Les 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La troisième dose.